شيء منطق حد شيء قدام الفلوس وليد ما نعرف حتى شيء عيشة تتلخص ضحكوا برشا حزين لحزين لحزين تقعد تتبع كيما الجرح ما يبراش وقتاش نجم نحكي ونتكلم ونولي معلم عشتي ولاد زنزان عندي سنين وانا نتكلم زعما حياتي فاتت قبل ما توفى بالافراح والمآسي سي نورمال باش توفى حياتي انا توفى والاحبار عمره ما يوفى عندي برشا كلام نقولو قبل اخر بروفا يوفى زعما حياتي فاتت قبل ما توفى بالافراح والمآسي سي نورمال باش توفى حياتي انا توفى والاحبار عمره ما يوفى عندي برشا كلام نقولو قبل اخر بروفا ويوفى استقبل قالوا اللي الدنيا هذه راهي فانيه دنيا فانية اوكي في بالي الدنيا فانية توفى في ساعة في دقيقة في لحظة في ثانية ان كومباتون عمري ما كنت بون كومباتون قدام ساتون ديما تغلبني وتلعب بيا طوباسيون نحكي ونتألم في المايك نتكلم نبكي ونتعلم وكيما نتعلم في الدنيا نعلم مخنوق نحب نتنفس ذقت المر في كل مرة نموت ألف مرة ومرة عيشة مرة عيشة دراما ديلاماتيك عيشة مرة مخنوق نحب نتنفس ومن العذاب نذوق نورمال ربي كبير والمورال ديما الفوق ان شاء الله مع عذابي تتنسى في ثانية إن شاء الله بعد الصبر نعيش عيشة هانية إن شاء الله نمسح دموعي ودموع اللي معايا واللي بحذايا في
Allez, voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et ce n'est pas tout à fait l'émission Les Oreilles Loin du Front comme on vient de vous l'expliquer, mais c'est une émission exceptionnelle sur la situation actuellement en Tunisie. Avec autour de la table Wassim, Lotfi et Fatma. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que Wassim, tu peux dire deux mots sur la musique qu'on vient d'entendre.
Oui, donc c'est un groupe de jeunes tunisiens. C'est un groupe de rap tunisien qui s'appelle Nizar. Le chanteur, il s'appelle Nizar et la chanson s'appelle Zarma.
D'accord, et c'est pas du tout en vente libre apparemment. C'est du pur pirate.
Pur pirate, ça se vend pas encore. Peut-être on reviendra sur cette question parce que c'est l'une aussi des problématiques qu'on va traiter aujourd'hui par rapport à la politique générale tunisienne et la politique par rapport aux jeunes, par rapport à la culture et aux artistes.
Alors justement, on va parler, c'est un peu le sujet de cette émission, de ce qui se passe actuellement autour du bassin minier de Gafsa, mais peut-être qu'on peut revenir sur qu'est-ce que c'est que la situation politique aujourd'hui en Tunisie. On sait que c'est un pays ami de la France, ami de ses présidents successifs, mais derrière cet écran de fumée de la bonne entente franco-tunisienne, quand on rencontre des militants comme vous, des militants de la cause des droits de l'homme en Tunisie, on a un tout autre son de cloche. C'est quoi la situation ?
La situation, peut-être que Fatma va nous parler plus tard par rapport par rapport à la politique tunisienne, c'est sur tout ce qui est torture, contrôle, flicage et toutes ces exactions de ce régime qui dure depuis une bonne vingtaine d'années. Mais je crois que de commencer par Gafsa, ça va nous permettre aussi de comprendre tous les enjeux et tout ce qu'il y a derrière tout ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Ce qui se passe à Gafsa est vraiment un bon exemple pour comprendre et pour pouvoir construire une analyse assez proche de la réalité. On va commencer par les faits. Je poserai ma première question à Lotfi par rapport à qu'est-ce qui se passe à Gafsa, comment ça a éclaté. C'est pourquoi le bassin minier, Gafsa, c'est l'histoire un peu d'histoire, un peu de... Voilà, je te laisse la parole.
Oui, d'abord, monsieur, dame, bonjour. Bon, c'est Gafsa ou région de Gafsa. C'est environ de 400 km de capitale Tunis. C'est le sud-ouest de la Tunisie et aussi... C'est à côté de l'Algérie ou la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. L'histoire de Gafsa, c'est la zone de phosphate, le phosphate qu'ils ont commencé les Tunisiens et aussi les Français depuis la fin du 19e siècle, et où il y a l'exportation. Ce fait de port de. C'est pas Gafsa, mais Agabès, juste à côté. Donc, les caractères de cette région, essentiellement, il y a trois. Je peux le citer. La première chose, c'est que cette zone, il y a vaste pauvreté, il y a chômage, Il y a aussi quoi, le développement. Il n'y a pas de développement économique ni industriel sous le régime de Bourguiba et aussi le régime de Ben Ali. Donc, aujourd'hui, la réalité des choses, que cette révolte, elle a commencé, les indices de cette révolte, ça fait des années, mais les éléments directs, ça fait un an et demi, où il y a, premièrement, il y a des manifestations et des grèves de faim des chômeurs diplômés, que ce soit à Gafsa ou à Ardaïf ou à Oum El Araïs ou à Zannouch, cette région, on appelle bassin minier. Donc il n'y a pas de. Il n'y a que l'exploitation de phosphate. Et depuis maintenant 10 ans, elle était vers 14 000 ouvriers dans les mines, mais aujourd'hui il n'y a que 5 300 seulement. Et donc, en plus, il n'y a pas de développement économique, ni industriel, ni agriculteur. Donc, cette situation économique, elle a poussé la population plusieurs fois de révolter contre le régime. Et dernièrement, à cause de comment s'appelle la société qui dirige les mines à Gafsa et à Ardaïf, à partir de 4 janvier 2008, les résultats de concours étaient falsifiés.
De quel concours?
La société de phosphate, chaque 4 ans, fait des recrutements. Mais après 4 ans, elle a donné les noms des candidats qui, en principe, commençaient à travailler à cette mine. Mais la population et les gens qui ont fait direct le concours, ils ont dit qu'il est falsifié. Donc, il y a pression des capitalistes sur place. Il y a des interventions du ministre pour mettre... c'est pas les jeunes de Gafsa ou Erdaïf qui travaillent sur place. Donc ce problème là elle est éclaté le 4 janvier 2008. Le 5 janvier, les chômeurs diplômés ont manifesté à Erdaïf, mais la police elle fait presque massacre contre eux. Le 6 janvier, la population elle a commencé à révolter contre le régime et contre toutes les formes de l'autorité sur place.
Et comment ça se fait que c'est la première fois qu'on voit en Tunisie, à partir du mois de janvier, et on est au mois de juillet, qu'une manifestation et qu'une révolte, elle perdure dans le temps? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le bassin minier, il a réussi à se battre et à résister? On n'a jamais vu ça dans un régime où on sait qu'il y a un policier et demi par habitant. On sait qu'en dehors des forces policières, les membres du parti, les cellules du parti qui sont implantées dans tous les quartiers contrôlent plus ou moins. Ils ont un dossier, on dit en rigolant en Tunisie, qu'ils ont un dossier sur tout le monde, sur tous les habitants. Comment ça se fait que, cette ville, que cette région arrive à résister jusqu'à aujourd'hui?
C'est clair, c'est la pauvreté et le taux de chômage à Gafsa, c'est 38%, donc c'est énorme. Et en plus, il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source pour les gens. Ça fait 2 mois, des familles qu'ils ont décidé de quitter le territoire tunisien vers l'Algérie. Donc la situation de pauvreté qui a poussé la population de révolter. Mais ça fait des années et des années. Donc le concours, c'est juste le point qui a déclenché cette révolte. Mais entre-temps, il faut savoir que cette région, par rapport à des autres régions de la Tunisie, il n'y a pas de développement. Ça fait des années et des années. Donc la situation de pauvreté et de chômeurs, en plus, avec le temps, il n'y a pas de solution directe pour la population. Donc, on voit aujourd'hui qu'en Tunisie, il n'y a pas de miracle d'économie qu'on parle du régime et qu'on parle que dit Ben Ali à chaque fois qu'il y a un miracle économique en Tunisie.
Mmh. Essayons d'être un peu plus clair. On va essayer de récapituler un peu les causes de cette révolte. Parce que le concours, donc, c'était la dernière étape, on va
Exactement.
Dire, d'un processus qui a commencé plusieurs années à l'avance, avant même Ben Ali, donc à partir de Bourguiba, et là, toute la politique industrielle de la région. donc, comment on va... Tiens, les causes, premièrement, donc, on a dit, c'est une politique industrielle de cette région qui est pauvre. C'est une politique industrielle qui manque d'imagination, qui manque de moyens. C'est... Par contre, et d'un autre côté, c'est une région où le phosphate, qui a les prix du phosphate au niveau international qui ont explosé, qui sont passés de plus ou moins $40 la tonne à 140 dollars la tonne. Donc, il y a les sous qui rentrent. Ça, c'est la quatrième producteur mondiale de phosphate, la Tunisie. Donc, c'est le problème. Est-ce que c'est un problème de répartition des richesses ou c'est plus loin que la répartition? En dehors de la corruption, de tout.
Mais c'est le tout. Mais il y a trois éléments essentiels. Il y a l'élément de développement. Il n'y a pas de développement de cette région, donc il n'y a pas d'économie et il n'y a pas de projet d'économie, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de société, il n'y a pas, donc il y a l'absence de l'État même dans cette région, mais il existe que la police. Ça fait des années. Ça, élément. Le deuxième élément, c'est ces dernières années, c'est l'augmentation de chômage, où il n'y a pas des secteurs où les jeunes ils peuvent travailler. Donc, il y a des milliers de chômeurs. Par exemple, je vous cite Zannouch, par exemple, le village dans le bassin minier, il n'y a pas beaucoup d'habitants, il y a au moins 400 chômeurs diplômés qui ont commencé à manifester. Ça fait des années, mais il n'y a pas de solution. Donc la situation sociale, économique et en même temps la politique du régime de Ben Ali, elle ne discute pas, elle ne cherche pas des solutions directes pour la population et la richesse de la société de phosphate de Gafsa, c'est pas pour la population de Gafsa. Il y a pas, par exemple, partie de l'argent d'exploitation de management pour les habitants. Il y a pas. Il y a juste équipe des capitalistes étrangers et tunisiens. Il y a l'État qui fait comment on dit en Tunisie le rôle de police. C'est tout. Tous ces facteurs, ils ont enclenché cette révolte. Mais on peut dire aussi, si on regarde l'histoire de la région, par exemple, ça fait 2 ans et demi, il y a une révolte à Gafsa qui a duré exactement 24 heures, mais elle était très violente. Il y a des blessés, il y a des arrestations, mais juste 24 heures. Cette fois, ça fait 6 mois ou 7 mois qu'il y a une solidarité magnifique entre les gens. Il y a aussi le sens de... parce que, en fait, les cadres de ce mouvement sont des syndicalistes, ce sont des professeurs, c'est pas des intellectuels, mais des militants du terrain, de sorte que cette révolte, elle a commencé le 4 janvier, elle est restée jusqu'à aujourd'hui, le même temps, mais cette combat de lutte où il y a plusieurs façons, il y a les femmes qui luttent, il y a les jeunes, il y a toute la population qui a manifesté contre le régime.
Mais concrètement, vous parlez de 6 ou 7 mois d'activisme. Ça se traduit comment sur le terrain? C'est il y a des mots qui courent, mais c'est des émeutes, c'est des manifestations, il y a des assemblées populaires. Qu'est-ce que Quelle forme prend concrètement ce mouvement depuis 6 mois?
Je vais essayer de répondre, mais avant, tout d'abord, j'ai envie de remercier la radio Fréquence Paris Pluriel pour nous avoir donné cette occasion de nous exprimer et de nous faire valoir les luttes de notre peuple pour la dignité, tout simplement. C'est vrai que cette affaire dure depuis 6 mois, mais quasiment la presse française et européenne et internationale l'information passe inaperçue. Il n'y a rien eu à part quelques communiqués de la part des organisations internationales des droits humains. À part ça, il y a eu un article dans Le Monde, mais à part ça, il n'y a rien. J'ai envie de dire aussi, par rapport à ce pouvoir qui est mis en place depuis 50 ans, mais essentiellement avec Ben Ali, c'est tout simplement un régime policier. C'est un régime qui a été mis en place en novembre 1987 à la suite de ce qu'on appelle un coup de force médical qui a mis fin à un règne, le règne de M. Habib Bourguiba, qui a duré près de plus de 40 ans. M. Ben Ali gouverne le pays il y a plus de 20 ans. Et plus de 20 ans, le bilan est là. C'est un bilan catastrophique parce qu'il y a tant de dégâts, il y a tant de... Les violations en Tunisie des droits humains sont incalculables. Ils ont frappé toutes les tendances sans exception, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient associatives, parfois même culturelles et sportives. C'est une main basse sur toute la société civile tunisienne qui est privée de tout espace de liberté. La presse, on a une presse sur commande. On a une presse qui ne sait qu'applaudir le régime et le gouvernement de Ben Ali. On a une justice aux ordres. Des milliers et des milliers de Tunisiens, des jeunes Tunisiens, croupissent dans les prisons pour avoir oser dire non ou critiquer une idée ou un fonctionnement. La torture est un système mis en place. Ils disent que c'est des cas isolés, c'est un système, et c'est l'avis de toutes les institutions et de tous les ONG internationales. Bref, pour vous dire que c'est un peuple qui est pris en otage depuis plus de 20 ans. Et la région de Gafsa est une des régions qui a été le plus sacrifiée. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, c'est une région qui est connue dans l'histoire de la Tunisie. C'est une région qui est connue par ses traditions militantes et révolutionnaires. Elle a joué un rôle essentiel dans la résistance nationale contre l'occupation française. C'était une des régions qui est la première à mettre les feux dans le pays dans les années 46 avec Farhat Hachet. Donc c'est une région qui a son poids historique, symbolique, et sa population est connue par le sens de la dignité qu'ils ont, hommes et femmes. Que ce soit avec Bourguiba, que ce soit avec Ben Ali, il y a en Tunisie des générations qui ont été sacrifiées, mais aussi des régions. Et parmi ces régions-là, la région de Gafsa, bien que c'est une région des plus riches de la Tunisie, parce qu'il y a tout simplement, c'est une région d'exploitation de phosphate, tout le phosphate de la Tunisie se trouve dans la région de Gafsa, et comme a dit Wessim, c'est le quatrième pays exploitateur de phosphate. Malgré ça, il y a une grande précarité, il y a une grande pauvreté qui frappe tout le monde sans exception. Dans la ville de Oum El Araïs, une des villes qui est en ébullition depuis janvier 2008, il y a 1400 jeunes diplômés, un jeune universitaire chômeur. Parmi eux, des jeunes qui sont en chômage depuis une dizaine d'années et même plus.
Juste pour dire un mot, c'est juste une population de 31 000 habitants. C'est une population de 31 000 habitants. C'est énorme comme chiffre. Déjà, les chiffres de chômage officiels, juste pour dire un mot sur les taux de chômage, c'est la moyenne nationale, elle tourne autour de 14%, 15%. Dans la région d'Oum El Araïs, elle est autour de 34%. Donc ça explose carrément.
Et encore, donc, tu parles que des chiffres officiels, c'est un petit peu comme en France, quoi, où on a des chômages.
C'est les chiffres. Personnellement, rares les Tunisiens qui croient à ces chiffres-là, parce que la réalité est malheureusement beaucoup plus grave que ça. Donc, imaginez une ville où sa jeunesse, où son élite, pour la majorité est en chômage. Quel espoir elle a? Qu'est-ce qu'elle peut attendre de ce régime-là? Donc, c'est un ras-le-bol extraordinaire. C'est un ras-le-bol généralisé qui a frappé toutes les générations sans exception. Hommes et femmes, instruits et analphabètes. Et on est là devant un fait où les gens n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout perdu. Et ils n'ont plus d'illusions. Lorsque Bourguiba est mort, il y a eu des mouvements de protestation dans les rues, et le premier qui était des mouvements très spontanés où personne n'est derrière, mais le seul mot d'ordre qui a été levé de Sfers à Gafsa à Bizerte, c'est la corruption, c'est ce régime corrompu qui a tout volé, tout vendu, qui a pillé les richesses du pays. Et ça continue. Donc ce n'est pas un secret pour tout le monde. Les affaires de vol, de corruption, c'est des histoires au quotidien entretenues par les populations. Et ils savent très bien, leur région est parmi les plus riches du pays, mais pour eux, il n'y a rien. Et c'est ce concours dont a parlé mon ami Lotfi, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a à peu près 6000 jeunes qui ont participé à ce concours de recrutement. Ils ont pris quelques dizaines, et les quelques dizaines sont les amis de mon ami, alors les amis du gouverneur, la nièce du brigadier, et c'est des gens qui ont été, et voilà. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, et depuis, la région n'arrête pas. Alors, comment ça a été? Des sittings, des grèves de la faim, des manifestations au quotidien, conduites par les lycéens, conduites par des femmes, mais lorsque je parle des femmes, c'est des milliers de femmes qui sortent. Les maisons sont fermées, et c'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire en Tunisie aujourd'hui, c'est que ce mouvement-là, depuis son arrivée, on parle d'une élite qui se bat pour la dignité du Tunisien. Maintenant, c'est le peuple. C'est le peuple et ils n'ont plus rien à apprendre de nous. Et c'est ce qui est extraordinaire. Et je suis certaine, et je ne suis pas la seule à avoir cette conviction, ça ne se rattrape pas. Toute la répression, aussi sauvage qu'elle soit, ça ne s'arrêtera pas. Parce que tout simplement, les gens ont faim.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. On parle de la Tunisie et on y revient juste après ça. Et voilà, on est toujours sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel et on vient d'écouter de la musique du bled que nous a ramené Wassim. C'était quoi ?
C'est pas forcément du bled, c'est du Liban. C'est Marcel Khalifa Faliat El Hissar. On attend le... comment dire, El Hissar ? C'est le barrage, c'est
l'encerclement.
L'encerclement, voilà, on attend l'encerclement. Donc Marcel Khalifa qui chante, c'est un chanteur libanais.
Oui. C'est un chanteur engagé, des plus célèbres de la région. Il est connu par toutes les femmes et tous les hommes de gauche arabes.
Chanteur.
Mais moi je suis pas arabe, mais c'est parce que je suis de gauche. Alors, Wassim, on a commencé à discuter des formes concrètes. On a un petit peu essayé de comprendre quelles étaient les raisons sociales de ces révoltes dans le bassin de Gafsa. Peut-être on pourrait poursuivre sur quelles ont été les formes concrètes, parce qu'un mouvement qui dure plus de 6 mois, peut-être que ça interroge justement comment on tient aussi longtemps.
Donc, Fatma et l'autre, ils ont parlé un peu de la population qui a pris le pouvoir, qui a pris la rue en pouvoir, qui a pris les institutions, elle a pris la ville, elle s'est réappropriée la ville, de toutes ces institutions. Cette population, comme disait Fatma, donc il y a des jeunes, des vieux, des handicapés, tout le monde, les jeunes diplômés, pas diplômés, des chômeurs, des travailleurs. Pour la première fois, on voit des commerçants, des petits commerçants qui sont en grève, qui militent avec la population. Avant d'arriver aux formes de lutte, je veux revenir juste sur un point, c'est le syndicat, parce que on connaît Gafsa, on connaît l'histoire de Gafsa, vous avez présenté l'histoire de Gafsa, et Gafsa aussi, c'est un bastion syndical, c'est un bastion syndical qui a construit et qui a participé d'une manière forte à la construction de l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le syndicat ? Il en est où ? Comment...
Avant de passer la parole à Fatma, juste je veux dire aussi que cette révolte, elle a passé le bassin minier. Je veux insister en tout cas sur ce point-là. Elle a touché aussi des autres villes comme Feriana, juste à côté de Gasserine, et Majel Belabès, où il y a des arrestations massives. Et il y a aussi des luttes de la population, et il y a des sittings, il y a des grèves de faim sur place. Donc la distance entre Feriana et Gafsa vers 70 kilomètres. Et je veux dire aussi, dans cette révolte, il y a jusqu'à maintenant 3 morts. l'un de ces trois avec les balles réelles de la police. Il y a 26 blessés par balles réelles. Et je veux dire aussi que maintenant, la situation à Ardaïf, il y a l'intervention de militaires donc, qui a remplacé la police, mais il contrôle tout. Il est aussi très actif dans les arrestations. Et je passe la parole à Fatma.
Fatma.
Oui. Alors, on a dit. Moi, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote pour vous dire. C'est en même temps un hommage à toutes ces femmes extraordinaires qui ont brisé la répression, la police et qui étaient là à occuper tout simplement les rues de Rdaïf, de Mlaraïs, de Lemvilla, de Metlaoui. Il y a une dame, madame Khira Lameri. C'est une dame de 41 ans. Elle n'a jamais mis les pieds dans une école. Elle ne sait par conséquent ni lire ni écrire. Elle a quitté son domicile, c'est une veuve. Elle a quitté son domicile le 5 janvier et depuis elle n'est plus revenue. Elle a été enceinte, elle a mis son enfant, son bébé, elle a accouché dans une tente, sous une tente d'infortune, et elle a appelé son bébé, une petite fille, elle a appelé Intissar, c'est-à-dire Victoire. Elle a été ramenée à l'hôpital, elle a mis son bébé et 24 heures après, elle est revenue sous la tente et elle continue. C'est une femme qui dirige les manifestations, qui organise les sittings, qui organise et qui a appris à négocier, à être souple quand il faut, à être vigilante pour ses principes et sa lutte. Et comme Khira, il y a des dizaines, il y a Afef Ben Nasser, c'est une militante, une universitaire au chômage, une militante au sein de l'Union pour les diplômés, les chômeurs diplômés. Elle joue aussi un rôle essentiel. Il y a aussi l'épouse de Monsieur Adnan El-Hajj et le porte-parole de ce mouvement-là, qui a été arrêté et maintenant incarcéré depuis le 21 juin. Son épouse, Madame Jemaa El-Hajj, une syndicaliste, joue un rôle essentiel. Tout simplement pour vous dire, moi je suis une femme et je suis très sensible à cette cause-là. Les femmes du bassin minier jouent un rôle déterminant dans cette lutte-là. Et ils ont donné une dimension plus humaine et plus urgente. Et c'est ce qui fait le côté extraordinaire, c'est que des femmes qui n'ont jamais quitté leur sphère privée ose quitter le domicile et s'occuper et se mettre au service d'autrui, c'est extraordinaire. Pour vous dire aussi l'importance et l'ampleur de ce mouvement-là. Des femmes comme ça ne peuvent plus revenir en arrière et ne peuvent plus se taire sous la répression uniquement.
Oui.
Excusez-moi, Wassim, j'ai oublié votre question. J'avais envie de rendre hommage aux femmes, je l'ai fait. Maintenant, je peux vous répondre.
Tout à fait, ça. Tu parlais de la femme de Adnan El-Hajj. Adnan El-Hajj, c'est un syndicaliste. Mais il représente pas l'image que la population aujourd'hui elle porte par rapport au syndicalisme dans la région. C'est-à-dire, les cadres syndicaux qui ont participé aux tractations, notamment par rapport au concours, et qui ont notamment été montrés du doigt et même avec une grosse publicité de la population qui a fait une grosse publicité contre eux par rapport à qu'est-ce qu'ils ont, toutes les dérives du système de corruption, de dérives du système de clientélisme qui existe, que les cadres syndicaux, notamment de la société de phosphate de Gafsa, ils ont mis en place, bien sûr en collaboration et par le protectorat et l'assistance des pouvoirs locaux. Donc je vais revenir sur le syndicat. Le syndicat aujourd'hui, ça, je dirais... qu'il y a une direction syndicale, comme toutes les institutions tunisiennes qui est satellitée par le pouvoir, mais cette direction syndicale, elle s'arrête pas, elle arrive pas à gérer par la base, quoi.
Ça. Oui, le problème du syndicat, regarde, depuis depuis le premier jour de l'arrivée de Ben Ali, elle a mis le paquet pour maintenir bien ce qu'on appelle l'UGTT, c'est-à-dire l'organisation syndicale des travailleurs en Tunisie. Et depuis, les syndicalistes sur place, par exemple à Gafsa, la plupart jouent le rôle en même temps des ercidistes, c'est-à-dire le parti de pouvoir, et en même temps des syndicalistes, et en même temps ils ont des sociétés, des petites sociétés qui gèrent telle ou telle chose. Donc la corruption, la question de corruption qu'elle a soulevé Fatma, c'est aussi, elle était là. Donc la corruption entre les dirigeants de la société, avec les syndicalistes, avec les gens de pouvoir sur place. Donc ils ont construit des réseaux de façade, c'est-à-dire le façade sur place. Corruption, exactement, corruption. Mais les gens de Gafsa, ils connaissent très bien ces gens. Donc quand ils ont commencé à révolter, ils ont commencé par ces gens. Ils ont montré par leurs doigts, voilà, tel monsieur, c'est lui qui a amené telle dame ou telle fille pour prendre telle place. Donc, ils sont les complices du régime de Ben Ali. Mais, entre-temps, il y a des syndicalistes libres, des syndicalistes militants sur place, dans le syndicat de l'enseignement, dans le syndicat de la poste, dans le syndicat de différents métiers qu'ils ont lutté avec la population, et petit à petit ils ont trouvé les syndicalistes, les vrais syndicalistes, les militants de cette région pour militer avec la population. Et pour cela, peut-être les syndicalistes, ils ont joué le rôle en même temps, jouer le rôle fondateur pour cette mouvement, et en même temps les autres syndicalistes qui ont joué le rôle de l'FSL sur place à Gafsa, de corruption. Jusqu'à maintenant, le bureau exécutif de l'UGTT, il reste sa position officielle, il reste toujours avec le régime. Donc, par exemple, Adel Hadji, il veut exclure Adel Hadji au sein de l'UGTT. Exactement. Donc, elle a mis la pression, le bureau exécutif, elle a mis la pression sur les syndicalistes qui ont été dans le mouvement.
C'est pas la première fois maintenant.
Non. Et ça c'est pas la spécificité de la région, mais dans toutes les régions de Tunis, et le bureau exécutif de l'UGET et secrétaire général, il a mis la pression maintenant partout et par plusieurs formes.
Wassim, je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Alors, c'est dans la même direction, un petit mot par rapport au syndicat. On a un syndicat unique qui est l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, où elle regroupe du professeur universitaire jusqu'au minier, hommes et femmes. C'est un syndicat qui a été créé en 1946 sous l'occupation française, qui a joué un rôle fondamental dans l'indépendance du pays. depuis l'arrivée de Ben Ali, et je crois que c'est une de ses réussites, c'est qu'il a réussi à noyauter ce syndicat et il a réussi à mettre le grappin sur la direction. C'est un des syndicats le plus actif et le plus important de la région arabe et de l'Afrique. C'est-à-dire, pour mettre le grappin sur un tel syndicat, ce n'était pas rien. Et maintenant, c'est vrai qu'au niveau de base et au niveau des structures intermédiaires, les choses ont commencé à bouger. C'est-à-dire que une nouvelle génération commence à occuper les lieux, à prendre des postes clés, à revendiquer l'indépendance du syndicat. Ce n'est pas toujours évident, mais les choses commencent à bouger. C'est ce qui s'est passé à Gafsa. Bien qu'on a une union générale au solde du régime à 100%, il y a des syndicats de base et des syndicats territoriaux qui sont vraiment indépendants et qui ont une grande crédibilité au sein du mouvement social. Entre autres, les syndicats de Rdaïf, de Om Laraïs et essentiellement de Rdaïf, qui a joué un rôle fondamental dans ce qui se passe au niveau de tout ce mouvement de protestation sociale et populaire.
Pierre, oui.
Ah non, moi je voulais vous poser une question parce que là on vient de parler des syndicats. Je voulais demander qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme force. Est-ce qu'il y a des organisations de gauche, des partis de gauche plus ou moins légaux? Est-ce qu'il y a des associations? C'est quoi le panorama quand on est en lutte aujourd'hui?
Alors, c'est une bonne question, Pierre, tout simplement pour vous dire que en Tunisie de 2008. Il y a malheureusement, depuis son arrivée, il avait une politique claire. Tous ceux qui sont avec moi sont mes amis. Tous ceux qui sont qui ont un autre sont mes ennemis. Et c'est comme ça, c'est ainsi qu'il a réussi à liquider tout le monde. Alors, s'il a utilisé la politique souple avec le mouvement social et l'UGTT essentiellement, c'est très différent avec les forces politiques et les forces associatives. Je vais vous donner simplement l'exemple de la Ligue tunisienne de défense de droits de l'homme. Mon mari est le secrétaire général de la Ligue tunisienne. Il a fait la prison avec Ben Ali, il a fait avec Bourguiba, il a fait la prison à deux reprises avec Ben Ali, et là il a l'asile politique et il a été condamné à 10 ans de prison ferme pour une affaire fabriquée de toutes pièces. Mais fermons les parenthèses. J'ai envie de vous dire, par exemple, pour la Ligue tunisienne des droits de l'homme, c'est une des ligues et des associations les plus prestigieuses de la région arabe. Elle est la première. Elle a été créée en 77 et durant toute son existence, le maximum que Ben Ali a pu faire pour cette association, c'est de créer une autre qui est une association fantoche. Tout le monde est d'accord, mais il n'a pu rien faire. Depuis Ben Ali, elle a été liquidée à plusieurs reprises. Maintenant, elle vit hors la loi depuis 3 ans, 3 ans et demi.
Ils n'ont plus rien.
36 procès ont été tentés contre 36 procès ont été tentés contre la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Imaginez un tout petit peu les militants des droits de l'homme dans les régions. À un certain moment donné, c'est des terroristes. Qui puisse les toucher, qui puisse leur parler. Les choses commencent à. Mais pour vous dire comme c'est difficile de tenir le coup pour les partis politiques. Alors sept partis qui font la décoration. Hein, c'est des partis bénis, oui, qui acceptent de jouer la. Alors notre Ben Ali, c'est lui qui choisit lors de toute élection présidentielle, c'est lui qui choisit ses adversaires. Hein, je vous assure, c'est comme ça, c'est tout simplement comme ça. Et je donne aux auditeurs seulement. Excusez-moi, Pierre. Il y a tant de il y a tant d'encre qui a été coulée par rapport à cette affaire-là. Je renvoie les amis, les auditeurs seulement au livre de Nicolas Beau et de Jean-Pierre Tucois Dumont, notre ami le président Ben Ali, où il explique comment Monsieur Ben Ali choisit lors de chaque élection présidentielle ses adversaires. Pour jouer le rôle de la pluralité et pour jouer, surtout, c'est une idée et une politique pour l'extérieur. C'est-à-dire, elle est faite et elle est organisée pour l'exportation extérieure, pour plaire à l'Occident et en Amérique, tout simplement. Donc, voilà. Alors, parmi ces sept parties, toutes les fois, il choisit trois de leurs représentants pour qu'ils jouent le jeu. À part ça, la plupart des partis, il y a deux autres partis qui sont reconnus, mais alors là, ils sont reconnus avec une surveillance policière 24 heures sur 24 heures devant leur siège. Si toutefois on leur accorde le droit d'avoir un local, c'est pas du tout évident. Il y a quelques mois, il y a eu une grève de la faim de 30 jours faite par deux dirigeants d'un parti soi-disant reconnu, le parti démocrate progressiste. Tout simplement, il est reconnu, ça fait 23 ans. Qu'il est reconnu. Et du jour au lendemain, ils ont décidé de les mettre dans la rue et ces gens-là n'ont plus le droit d'avoir des locaux.
Fatma, je veux pas te couper sur l'élan, mais
je suis partie trop loin.
Parce que
oui,
on a tellement des
choses à dire.
C'est notre discussion
et Monsieur Sarkozy qui vient en mois d'avril chez nous et qui ose parler des droits humains qui progresse. C'est une, je le dis et je le redis, c'est une humiliation pour les Tunisiens parce qu'ils ne méritent pas ça.
Voilà, donc on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel et on est avec Wassim, Lotfi et Fatma. Et a priori, aucun d'entre eux n'a été choisi pour être l'adversaire de Ben Ali aux prochaines élections. On se retrouve après ça.
قداش من سنين وانا هنا عايش نستنى في اللي مشى وتعدى عنده سنين من هنا كيف العرب متبلوكي سنين وانا نستنى السموكي من دخل احنا في الجنة زعم علاش يحبوا يمرمتونا علاش يكرهونا علاش حكموا علينا وحقرونا حتى ما غير ما يعرفونا ذات ما بيبو العربي اليوم شي ما عنده عيشتنا دراما وديلانا عيشتنا دير موندو قصة الكتاب اللي ما نقولو حتى عنوان قصة الزمان قصة المآسي والأحزان قصتنا كلمتنا ودمعتنا نسينا حكايتنا قداش من مرة تمنيت وسليت لكن من الدنيا شي مريت قداش من مرة في كل مرة
تزيدوا تكويتوا عمري ما قلت حين
يا صاحبي
الدنيا هذه راهي مرة بمرة
تاكيد با
ان شاء الله
وصل صوتي غاب
قداش من سنة واحنا هنا ريوسنا اللوطة عمرنا ما قلنا لا وقتاش نخرجوا من هنا
قداش من سنة وانا هنا
عايش نستنى في اللي مشى وتعدى عنده سنين من هنا
قداش من سنة واحنا هنا
ريوسنا اللوطة عمرنا ما قلنا لا وقتاش نخرجوا من هنا
قداش من سنة وانا هنا
عايش نستنى في اللي مشى وتعدى عنده سنين من هنا
قداش من سنة عديناهم متيليه رغم اللي يوم توري حاسين روحنا لوني اونلي الماني ولا تحكم في الدنيا حبوها كونديسيون من ساوي اللي هي ثانية كيفاش علاش وقتاش وين طحنا في اللابيرانت اللي ضعنا فيها سنين لو كونفيكسيون ولا تكدولات تتبدل كل يوم قيمتها تطلع وتطيح كيما يحب الدوم صحيح خلينا الماضي ورانا المستقبل بعيد ما علاش ثنيتنا ولا تسيرك اللي احنا ندورو فيه من وقتاش عيشتنا خذت فورمة لانسومبل بالفيد علاش تعود ديما نوصل للبيب حراتيه حكم فينا الكاش من رولاسيون ولا تبيس رددني فانتوم عايش وسط الميموريز قداش من السنة باش نستحملو اللي كاين وقتاش نخفو على ساقينا نقولو نو مور بين
قداش من السنة واحنا هنا ريوسنا اللوطة عمرنا ما قلنا لا وقتاش نخرجو من هنا
قداش من السنة وانا هنا
عايش نستنى في اللي مشى وتعدى عنده سنين من هنا
قداش من السنة واحنا هنا
ريوسنا اللوطة عمرنا ما قلنا لا وقتاش نخرجو من هنا
قداش من السنة وانا هنا
عايش نستنى في اللي مشى وتعدى عنده سنين من هنا
تونيزيانو في المايك نحكي ونتألم وهاك تشوف الجاج مدي يقرب بالعيشة فاخر الخوف حتى حد ما نجم يهز عينيه ويتكلم في جرة الخوف
واللي يقول اوف
ويتكى تحت العيد صايس الفيل
اسمه تنحى من الوراق تحرق ولا افيق
كازي وبيتيفي على ما جيت لعباد تتبكى عيد تشكى
كنتفوا
ندم اليوم ولات تحكوا فيه العزاء
وهاكي ترى
عيشة وان شاء الله جرحي ابرا
عاي
في ايبال من شي بروبليم عيشتنا وقعنا كله دراما وديلاما
شنو
كي يجي نتكلم نولي اوت لوا واللي تقول له كلام الحق يقول لك صاحبي اغتني من دوا عنده الحق اللي قال العرب بيلزمهم العصا والقوه واللي يقول لهم انا فرعون يقول له صحيح انت هو
قداش من سنة واحنا هنا ريوسنا اللوطة عمرنا ما قلنا لا وقتاش نخرجوا من هنا
قداش من سنة وانا هنا
عايش نستنى في اللي مشى وتعدى عنده سنين من هنا
قداش من سنة واحنا هنا
ريوسنا اللوطة عمرنا ما قلنا لا وقتاش نخرجوا من هنا
قداش من سنة وانا هنا
عايش نستنى في اللي مشى وتعدى عنده سنين من هنا
ايو
قداش من سنة واحنا هنا ريوسنا اللوطة عمرنا ما قلنا لا وقتاش نخرجوا من هنا اها نيزا في الميكرو يا هايثم اي كي اي هو اول مره في الميكرو يا وكي العادة دي جي دانجا معانا اليوم اها ان شاء الله العرب كلهم بلادي تونسي في الميكرو عاي ان شاء الله.
Allez, voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel et on parle ce soir de la situation en Tunisie, plus particulièrement dans le bassin de Kafsa. On est avec Wassim, Lotfi et Fatma. On a commencé à évoquer, mais on voulait y revenir, les formes que prennent depuis 6 mois ces mobilisations. Je ne sais pas qui veut un peu évoquer et dire comment une lutte du peuple de cette région de Tunisie peut se rester mobilisée aussi longtemps, surtout quand vous évoquez le niveau de répression qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une telle mobilisation dans le temps ?
Écoute, les formes de lutte en Tunisie, en général, nous, les Tunisiens, on connaît deux, trois formes. D'habitude, il y a grève de faim, il y a des manifestations, il y a des sittings. Mais la nouveauté, cette fois... dans la région du bassin minier, c'est extraordinaire. Je veux évoquer quelques formes. Par exemple, les formes détente. Détente, c'est-à-dire des femmes et que des femmes, ils ont construit des tentes sur le rail des trains, sur place. Et ils ont resté à Omlarais plus qu'un mois et demi. Donc, les trains qui amènent le phosphate pour le transformer, Transformé, transformé et transporté. Donc, ils ont coupé cette chaîne pendant un mois et demi. Les autres formes, l'Ardaïf, par exemple, les militants, ils ont fait des sittings pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Dans les locaux de l'EGTT, c'est-à-dire le syndicat sur place. Il y a aussi les femmes qui manifestent. Il n'y a que des femmes. Il fait des manifestations dans la ville. Ils ont saccagé aussi les postes de la police pour réclamer la libération des détenus.
Ouais. Juste, l'autre, oui. je vais te couper un petit peu pour avoir une chronologie des formes de lutte. Parce que, on a commencé par bloquer la production. Ça, il a été bloqué par les sittings sur les rails. Aussi, ils ont bloqué les usines de nettoyage du phosphate en sabotant les canalisations d'eau qui ramènent l'eau, qui est aussi une autre discussion sur les causes de cette eau et la pollution qui en résulte. Notamment aussi les conséquences de cette pollution, la baisse de l'agriculture, ça c'est une autre discussion qu'on peut encore avoir sur la répercussion sur cette région par rapport à cette forme de répartition des richesses par rapport à cette entreprise. Sur les formes de lutte, donc on est arrivé saboter l'outil de production. Ils ont saboté l'outil de production pour qu'ils puissent s'organiser et bloquer la production et bloquer l'entrée des travailleurs dans, parce que aussi il faut rappeler que l'entreprise après les premières manifestations, elle a appelé les nouvelles recrues pour qu'elles reprennent le travail, pour casser couper court à la mobilisation. C'est chose à mon avis aussi, ça a été beaucoup négocié, le mouvement qui s'est duré dans le temps, les premiers jours et les premières semaines, parce que l'État tunisien, comme d'habitude, qui est habitué à tuer dans l'œuf toute forme d'expression libre, d'expression autonome et de révolte, cette fois-ci, il s'est retrouvé face à des femmes, à des enfants, à des femmes déterminées. Donc après bloquer la production, on a vu donc comme tu disais sitting à l'UGTT, donc au syndicat, mais des sittings aussi un peu partout. J'avais compris, c'est aussi dans les.
Oui, il y a aussi l'occupation des locaux de RCD. Il y a l'occupation des bureaux de, c'est-à-dire tout ce qui représente l'État sur place. Ils ont manifesté contre lui et aussi ils ont l'occupé pendant certains temps. Il y a par exemple à Oum El Araïs, la population, elle a essayé de manifester contre la police sur place et Ardaïf aussi. Donc les luttes cette fois différentes et en même temps pacifiques et très fortes. De sorte que le régime, elle n'a pas trouvé le moyen et la forme, comment elle va réagir, comment elle va faire. Donc, il a resté 2 mois et demi de le début jusqu'à au début de cette révolte. Le régime, elle n'a fait rien. Il regarde, il surveille, il ne peut pas intervenir parce que, comme je vous dis, la population, elle a occupé tout ce qui est symbolique de l'État. Et après, petit à petit, il n'y a pas de négociation avec les représentants du gouvernement. Ben Ali, elle a fait 3 réunions avec les ministres, mais elle n'a pas trouvé une solution, des solutions directes, c'est-à-dire par exemple le comité qui négocie avec les représentants de l'État, il réclame par exemple le menha, c'est-à-dire des primes pour les chômeurs, mais le régime il peut pas. Mais il y a des points je veux soulever. Il faut qu'on connaisse à Gafsa, il n'y a pas de régime social, c'est-à-dire il y a médical ni médical. Il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a pas pour les chômeurs. Il touche rien. Et donc en plus il n'y a pas de boulot. C'est pour cela, même quand la société de ministre du GAFSA elle a recruté exactement 13 personnes et pas des centaines. Et 13 personnes à travers l'intervention de Ben Ali, lui-même.
C'est après les événements.
Mais 13 personnes, c'est rien. Et en plus, 13 personnes, il a noté, Ben Ali, qu'il faut regarder ses dossiers. Oui.
Donc, juste pour aller, procès avancé, l'heure tourne et on veut parler de beaucoup de choses. Et juste pour avancer, donc, les propositions que fait le régime ne répondent pas. Ne répondent pas aux attentes ni actuelles, immédiates, ni des perspectives politiques pour l'avenir. D'après ce que j'ai compris, les propositions faites par le ministre et par le président, il n'y a pas une politique industrielle pour revitaliser la région, il n'y a pas une politique de recrutement des jeunes diplômés, de répondre
à ce chômage. Il n'a rien proposé jusqu'à maintenant.
Donc, voilà, c'est clair. Les raisons pour continuer à lutter, ils sont clairs, en tout cas. Les perspectives...
En tout cas, excusez-moi, Wassim, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Dès le début, c'était clair, le pouvoir de Ben Ali veut gagner du temps. Il n'a rien à proposer, il n'a rien à négocier. Mais il y a une évidence. Tout d'abord, il ne s'attendait pas à une telle mobilisation et à un tel acharnement de la part des acteurs. Il ne s'attendait pas à cette lutte-là. Il croyait que la chose va durer une semaine, deux semaines. Et pour nous, il faut le dire, même pour nous, c'était une première pour la Tunisie de Bourguiba et de Ben Ali. Et pour toute la région, c'est une première. Ça n'a jamais été un mouvement qui s'élargit dans le temps et dans l'espace et qui se radicalise de plus en plus, alors que il n'y a pas de représentation politique, il n'y a pas d'opposition politique à GAFSA. Il y a un mouvement social embryonnaire et il y a des hommes et des femmes libres. Et c'est ce qui est extraordinaire. Donc, excusez-moi. Je veux bien que ça soit un débat et qu'on échange.
Non, je voulais juste, pendant la pause musicale, Guillaume, qui réalise cette émission, nous poser une question assez simple. Vous nous décrivez un pays gangréné par la corruption, un chômage de masse, en particulier chez les jeunes, un tissu économique dans un état pitoyable. Vous décrivez une vraie opposition entre le peuple et ses élites. Et en gros, ce que disait Guillaume, pourquoi ça tient ? Pourquoi ce régime ne s'effondre-t-il pas ?
Tout simplement parce qu'il y a une répression extraordinaire. Et lorsque je te dis, Pierre, qu'il y a une répression, je n'exagère en rien. Il y a des centaines de milliers d'indicateurs, de brigadiers, de torsionnaires, des yeux vigilants, des comités de quartier et de secteurs dans les entreprises, des cellules du parti au pouvoir. José Garçon a dit un jour, elle a écrit un jour un article sur la Tunisie qu'elle a intitulé Consomme et tais-toi. Dans la Tunisie de Ben Ali, le seul mot d'ordre est consomme et tais-toi. C'est une société qui est embrigadée, qui est quadrillée par la police. Officiellement, on a 140 000 policiers, c'est-à-dire à peu près le même nombre de policiers que sur le peuple français, qui est 6 fois plus nombreux que nous. 140 000 policiers pour 10 millions de population. Ça, sans compter les indicateurs, qui sont de l'ordre des dizaines de milliers, sans compter les comités de vigilance et de surveillance dans les quartiers, les comités d'estouriennes dans les entreprises, sans compter les indicateurs,
dans l'université,
dans les universités. Dans les c'est extraordinaire. Je peux vous vous affirmer que il y a au moins un million sur sur une dizaine de millions, il y a un million des gens qui sont au service de ce général. Oui, Alors pour vous dire, même lorsqu'on s'occupe, même lorsque vous échappez à ce régime, tout simplement pour avoir quitté le pays, alors il s'occupe de votre famille. Il s'occupe de votre famille. Les voisins peuvent payer aussi. Hein? Lorsque je dis la famille, c'est le père, la mère, la sœur, le frère, mais aussi même le cousin qui n'est pas aimé et avec qui je n'ai aucun rapport. Avec le cousin, avec le voisin, avec l'ami, tout passe. Le degré de répression diffère. Alors ceux qui n'ont pas le droit de travailler, d'autres n'ont pas le droit d'avoir un passeport, les autres ils n'ont même pas le droit d'avoir des pièces d'identité, les autres ils n'ont pas le droit d'avoir des passeports. Et pour les prisonniers politiques élargis,
Fatma,
personne d'entre eux n'a le droit n'a le droit aux soins. Et la liste est tellement longue. J'ai envie de vous donner, de vous parler par la suite. Excusez-moi.
On s'est fait un programme de 50 trucs dont on voulait parler ce soir, et surtout on voudrait pas ne pas parler de l'Union pour la Méditerranée. Peut-être l'autre fille, un mot là-dessus avant qu'on poursuive.
Je veux ajouter quatre éléments pour pourquoi le régime tunisien, ça passe avec lui, la France, avec l'Amérique. Il y a quatre facteurs. Premièrement, il y a 2 millions d'adhérents de RCD. Il y a 140 000 policiers, il y a militaires et il y a l'argent, parce que le régime tunisien a beaucoup d'argent, et il y a le soutien international et bien sûr le soutien international avec la France et avec les États-Unis, c'est clair, au niveau de la politique étrangère. Donc les Tunisiens, est-ce qu'ils ont des intérêts pour être dans l'Union? Je crois pas, et même la société civile et les partis politiques tunisiens et tunisiennes, ils ont commencé à réagir contre cette réunion, parce que on n'a pas des intérêts. C'est l'intérêt de la France et les intérêts des pays européens, c'est-à-dire, c'est pas la population, les peuples de l'Europe, mais des régimes. C'est l'union des régimes. Et on conteste ça pour deux ou trois raisons. Premièrement, ils ont soutenu dans cette union-là la dictature en Tunisie. Ils ont
dictateur de toute manière.
Exactement. Exactement. Ils ne disent rien sur la situation de liberté. Et troisièmement, ils sont tenus Ben Ali et les autres régimes sur la forme économie libérale capitaliste. Donc plus de pauvreté pour les peuples, plus d'argent pour les capitalistes dans ces pays-là. Et quatrième élément, c'est Israël, la situation d'Israël par rapport par rapport des autres pays. Vous connaissez tous que les pays arabes, il n'y a pas des échanges officiels. Mais par exemple, le régime tunisien, il fait des échanges avec Israël, mais il ne peut pas faire ça dans tout le monde. Il peut pas. Donc le problème de Palestine et d'Israël au cœur de cette question. Donc, problème économique, problème politique et problème avec avec ce que M. Sarkozy il veut faire. À part ça, je veux dire que pourquoi cette réunion ? Pourquoi l'union de l'Europe ? Pour le moment, il n'y a rien. Même Sarkozy, il n'a donné pas des idées claires. Et même les régimes, que ce soit Bouteflika ou Ben Ali ou Gaddafi ou etc., ils n'ont pas fait des idées claires sur l'union économique telle chose. Il reste la seule chose, c'est que les pays de l'Europe, essentiellement Sarkozy, il veut faire ça sur mesure et sur leur programme et pas à l'intérêt des peuples du Maghreb.
Oui, la question de l'Union pour la Méditerranée, elle s'est construite d'une manière très intéressante. Même si on suit la situation par rapport à la France, c'est que Sarkozy, lorsqu'il l'a lancé, il l'a lancé solo, pas avec l'Union européenne. L'Union européenne, elle est venue après la pression de Merkel et la pression de... Cette Union pour la Méditerranée... Dans beaucoup, elle va renforcer la position de la France, la position commerciale et politique de la France sur la Méditerranée. Ça, les visites, renouer le contact avec Gaddafi, avec Bachar el-Assad, c'est des régimes qui ont de l'argent, qui veulent investir dans le militaire, qui veulent acheter du militaire, qui veulent acheter des centrales nucléaires, qui veulent acheter tout type d'industrie, de produits d'industrie française. Mais aussi, il ne faut pas oublier la question des migrations dans ce projet d'Union pour la Méditerranée. Aujourd'hui, l'Europe, donc, elle a externalisé, elle externalise une partie de ses camps de concentration dans les pays du Maghreb, en Tunisie, au Maroc. C'est des camps où on emmène les gens, tous les clandestins qui veulent passer, ou même en Tunisie, je veux dire un petit mot sur les clandestins qu'on renvoie au bled, ils passent par la prison avant de rentrer chez eux.
Donc, il y a des morts chaque jour.
Ceux qui veulent passer par la mer, les jeunes qui veulent passer par la mer, toute l'Afrique qui remonte, on les a vus à Septemli il y a 2 ans, toutes ces images-là seront de plus en plus fortes, et la répression elle va être de plus en plus forte, et aujourd'hui elle sera aux mains de ces tortionnaires du sud, de l'autre côté de la Méditerranée, qui vont contrôler ça. Donc la question de l'immigration, elle est au cœur de ce projet. C'est pas pour rien que à Cannes, il y a 2 jours, Hortefeux et l'Europe, elle a ratifié sa politique par rapport à l'immigration. Un deuxième mot par rapport à l'Union de la Méditerranée, on a vu Barcelone. Les accords de Barcelone depuis 1995, on est passé 10 ans avec Barcelone, il n'y a rien qui a changé. Même les clauses par rapport aux droits de l'homme qui étaient présentes par rapport au projet de Barcelone, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien. Il n'y a aucune sanction économique. Tous les jours, des députés européens, ils viennent en Tunisie, ils assistent, ils sont présents à l'LTDH, Ligue des droits de l'homme, ils sont présents sur plusieurs manifestations. Mais il n'y a rien qui se passe au niveau de l'Europe. Aucune sanction, ni économique, ni rien du tout. Mais quelle sanction économique en même temps, lorsque tu vois la France, premier client, premier fournisseur de la Tunisie à plus de 90%, c'est inimaginable. Il n'y a pas de perspective politique par rapport à ce projet. La perspective politique qu'il y a aujourd'hui, c'est juste une forme de maquiller ou une forme de propagande qui sert à tout le monde, qui sert à dictateurs locaux pour renforcer leur image internationale et qui sert à la France pour conforter sa position commerciale sur la Méditerranée.
Alors, meeting de solidarité avec les luttes au Maghreb, ça se passe le jeudi 10 juillet, donc ça se passe demain, jeudi 10 juillet de 18h à 20h45 à la Bourse du Travail à Paris, 3 rue du Château d'Eau, métro République, meeting de solidarité avec les luttes du Maghreb et avec une série de signataires qui en gros rassemblent toutes les organisations de gauche entre guillemets issues de l'immigration présente en France, les syndicats français de gauche, les organisations politiques et les associations des droits de l'homme.
Thank you.
Allez, de retour sur le plateau de Fréquence Paris Pluriel. On est encore ensemble pour quelques minutes et on a beaucoup de sujets qu'on voulait aborder. On a évoqué ce meeting de solidarité avec les luttes au Maghreb parce qu'on devait en parler ce soir, mais ça sera assez partie remise. Il se passe aussi un certain nombre de choses en Kabylie et au Maroc pendant que s'organise l'Union pour la Méditerranée. On voit bien que les peuples du pourtour méditerranéen sont pas spécialement en de bons termes avec leurs dirigeants. Peut-être Fatma, tu voulais revenir sur deux trois éléments.
Oui, tout à fait. Tout d'abord, c'est fondamental de dire un mot sur la situation actuelle du bassin minier. Ça fait près d'un mois que les villes du bassin minier sont occupées par l'armée. Ils sont occupés par des centaines de policiers. Les arrestations sont quotidiennes et ça se compte en centaines. Pratiquement tous les chefs de file et les dirigeants de ce mouvement de protestation ont été arrêtés. Ils encourent des peines graves. Je vais donner quelques noms. Par exemple, l'arrestation le 21 juin dernier de Monsieur Adnan Hadji, qui est le porte-parole de ce mouvement. Il y a eu après aussi l'arrestation des acteurs le plus connu et le plus militant, comme Monsieur Adel Jayar, comme Bachir Labidi, comme Monsieur Tayeb Ben Othman. Il y a trois jours exactement, le samedi 5 juillet, le rapporteur spécial de la chaîne télévisée Le Dialogue Tunisien a disparu. J'étais tout à l'heure avec sa femme au téléphone. Elle m'a dit qu'elle a frappé à toutes les portes. Elle est partie voir le procureur général. Elle est partie voir la police politique. Mais personne ne lui indique rien. Tous n'ont aucune idée sur la disparition de Monsieur Fehm Boukadous. Il y a aussi Monsieur Ammar Amroussia, un dirigeant politique du Parti communiste des ouvriers tunisiens qui a disparu. Monsieur Ammar Amroussia a connu la prison à plusieurs reprises, a vécu la clandestinité pendant plusieurs années. C'est le cas aussi de Monsieur Fehm Boukadous et Dieu seul sait ce qui les attend de nouveau. Alors, j'ai envie seulement de lancer un appel pour la solidarité. Je sais que la France est enceinte de d'hommes et de femmes libres. Il n'y a pas seulement que Monsieur Sarkozy et les amis de Monsieur Sarkozy. Il y a aussi un grand mouvement associatif et politique et social qui se soucie d'autrui, qui se soucie de nos souffrances et de notre droit à la dignité. Et c'est sur ces gens-là, c'est sur ce peuple-là que nous comptons. Nous comptons sur leur solidarité et notre peuple du bassin minier compte sur la solidarité de ces hommes et de ces femmes. Donc rendez-vous le 10 juillet, jeudi prochain à 18h30 à la Bourse de travail de Paris. Et métro République, 3 rue de Château d'Eau. Alors, tout simplement pour exiger la fin de ces arrestations, pour exiger un retour aux négociations, pour exiger le droit à l'emploi et à la dignité de tous et de toutes, nos amis et nos dirigeants qui sont arrêtés et qui sont ont été sauvagement torturés. Ils encourent des peines pour entente en vue de la constitution d'une bande de malfaiteurs, pour violence sur agent, pour détention d'armes blanches, c'est-à-dire qu'il court des années et des années de détention. Donc nous comptons sur votre solidarité. Merci à toutes et à tous.
Alors voilà, moi je voulais quand même juste poser une dernière question et revenir sur ce que tu disais à Wassim. On voit bien qu'il se passe, vous l'avez décrit pendant une heure et demie, et si on avait parlé du Maroc, de l'Algérie ou de l'Égypte, on aurait eu un tableau encore plus sanglant que celui que vous venez de faire. Et Wassim, je sais que c'est des choses qui te préoccupent, mais qu'on voit bien que les questions de construction aujourd'hui d'une vraie solidarité internationale depuis la France, depuis les militants de gauche des droits de l'homme et internationalistes en France, beaucoup est encore à faire refaire.
À refaire surtout. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été faites actuellement, notamment beaucoup de partis politiques, beaucoup de syndicats qui soutiennent la manifestation qu'a eu le 5, le meeting du 5 et le meeting de demain donc, à la Bourse de Travail. Il y a eu aussi des manifestations locales, notamment à Nantes. C'est les ouvriers, les familles d'Ordeyev, c'est les émigrés de la région qui envoient de l'argent, qui sont mobilisés, c'est des jeunes travailleurs qui donnent une énergie considérable pour financer et pour soutenir le mouvement. Un mot sur les partis politiques et les syndicats en France. Donc, toutes les forces vives de la gauche, même le PS, dernièrement, a fait un appel de soutien et de solidarité. Donc, il y a Il faut organiser des meetings. Actuellement, c'est les vacances, mais à la rentrée, on espère sur une rentrée chaude, un mouvement social chaud pour pouvoir construire une solidarité plus large et plus forte en termes d'argent, en termes de soutien et de publicité surtout. Il faut de l'information, la pression.
Juste deux mots. En Tunisie, il y a 8 comités de solidarité. Ici, en France, on a 2. Comité de soutien à Paris, comité de soutien à Le Loir, et 3 et à Nantes. Et dernier mot, je dis à mon peuple, vive les luttes en Tunisie, vive les luttes dans le monde pour la dignité et le travail. Et un mot pour le RDF, espérons bien que les luttes تواصل من أجل إطلاق سراح كل المناضلين وأنه يكونوا في مستوى نضالاتهم المتواصلة. إلى اللقاء. Au revoir.
Merci à tout le monde. Merci à Pierre et merci à Fréquence Pluriel, Paris Pluriel. On espère vous retrouver bientôt, peut-être, si vous nous invitez. On a de quoi encore parler. Hein, les sujets ne manquent pas. Ça.
Allez.
Ciao.
Voilà, c'était à peu près les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel. On avait autour de la table, autour des micros, autour des boutons ce soir, pour mettre de l'ambiance, il y avait Lotfi et Fatma. Donc on vous souhaite bonne lutte et puis ça serait sympa de vous dépêcher de faire tomber votre régime parce que depuis quelques années, nous, on respecte la consigne du boycott touristique de la Tunisie et on aimerait bien pouvoir y mettre les pieds un jour, donc si vous pouviez vous dépêcher. Il y avait aussi Wassim qui a organisé, proposé et mis en place cette émission. Wassim, bah, tu reviens quand tu veux sur cette antenne. Cette antenne, elle est faite pour ça, pour donner la voix aux luttes en France, mais aussi partout dans le monde. Il y avait aussi Guillaume Yom à la réalisation ce soir, avec sous ses doigts une programmation musicale qui l'a laissé surpris lui-même. Rediffusion de cette émission vendredi de 12h30 à 14h. Alors attention, n'allez pas au meeting jeudi prochain si vous écoutez l'émission vendredi, c'était hier. Bientôt, vous pourrez retrouver cette émission et un tas d'autres sur le web à travers le site loldf.org. On se retrouve donc cette fois-ci, c'est juré, c'est promis, en septembre et peut-être avant, si le pouvoir venait à vaciller en Tunisie, voire en France. On vous abandonne dans les bras d'Echo du Capricorne puisque voici Claudie et Claudia. Ciao.